Sa boîte, sa Claudique, clopin clopant, un pas après l'autre, un mot après l'autre, ça avance mais c'est saccadé. Ça cloche mais quoi, comment dire, qu'est-ce qui boite? La vie, l'amour, l'histoire, le monde, car un car. Une jeune femme qui court dans l'arrière-pays niçois jusqu'à l'accident, la morsure d'un chien, et la voilà qui boite et que ressurgit son passé familial et une part de l'histoire française, celle des Harkis. Voilà en trois lignes le résumé de L'Agrafe, le nouveau roman de Marilyn Desbiol, qui vient de remporter le prix des lecteurs du journal Le Monde. Bonjour Marilyn Desbiol.
Bonjour.
Nouveau roman d'une très longue liste. Vous écrivez comme votre héroïne court, c'est-à-dire très vite.
Alors, j'écris très lentement, en vérité, très laborieusement, mais il me semble que j'imprime un tempo rapide, en effet, à mes livres. Et toute la gageure est là, d'ailleurs. Comment écrire laborieusement en tentant de maintenir un tempo rapide et pratiquement une sorte de légèreté, je dirais.
Mais vous écrivez beaucoup, 40 livres en 40 ans à peu près.
Oui, je n'ai pas compté.
Non, moi non plus vraiment. À l'unité près, je ne pourrais pas jurer. Mais quand même, la liste est très très longue de votre œuvre.
Oui, au fond, je ne fais que ça, écrire.
Mais est-ce que c'est un rythme? Est-ce que c'est un entraînement? Est-ce que si vous arrêtez comme un sportif pendant, je sais pas, 3 mois ou 6 mois, vous sentez que c'est plus laborieux après?
Ça m'est presque jamais arrivé. En vérité, je crois que, en ce moment, bon, j'ai un peu de, comment dire, j'ai un peu d'entretien à faire, de libraire à visiter, etc. Donc j'écris un peu moins, mais malgré tout, ça me reste en mémoire. J'ai toujours mon petit cahier avec moi.
Et vous écrivez depuis quand ?
Je crois que j'écris depuis que je sais écrire, ou plutôt depuis que je sais lire. Quand j'étais petite, oui, rien ne me prédisposait à cela parce que chez moi, il n'y avait pas beaucoup de livres, etc. Mais j'ai eu envie, au fond, de copier, de pasticher ce que j'écrivais et surtout d'organiser, en fait, mes petits cahiers déjà, comme des livres. En fait, j'ai eu envie d'écrire des livres, alors d'écrire, de paginer, de dessiner des petits culs de lampe. Et ça, c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi.
Mais vous savez pourquoi, de ce plaisir de l'enfance, vous avez fait une vie ? Puisque vous ne faites que ça.
Parce que c'est un plaisir fou. Moi, je ne suis vraiment pas dans la posture de l'écrivain qui souffre, bien que, encore une fois, écrire, c'est laborieux, que j'ai des trous, des manques, bon, des difficultés à écrire. Mais quand même, se retrouver seul dans son bureau, pour moi, c'est quand même le bonheur. Et surtout, à un moment, de se dire « j'ai trouvé quelque chose ». Tiens, j'ai trouvé le mot qu'il faut.
Et d'imaginer des personnages qui courent.
Oui.
Parce que ce n'est pas la première fois qu'une héroïne court dans vos romans.
Oui, c'est vrai. Ça, c'est un motif récurrent. C'est marrant parce que moi, j'ai l'impression que quand j'ai mis en place un motif, j'en suis responsable et que je ne peux pas le laisser tomber. Et donc, je dois le reprendre pour voir ce que ça fait.
Mais pourquoi ce motif ? Une femme qui court, d'autant que vous rendez hommage à quelqu'un dont j'ignorais tout, qui s'appelle Bobby Gibbs dans ce livre.
Bobby Gibbs, c'est vraiment une personne formidable qui, à une époque, en 1960, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, voulait courir le marathon quand c'était interdit aux femmes, avec la bénédiction de la médecine qui disait qu'une femme ne pouvait pas courir le marathon car elle risquait d'y perdre ses organes. Bobby Gibb, elle courait bien plus que 42 km, elle courait même 61 km, elle restait intacte. Et un beau jour, elle s'est introduite dans le marathon le plus connu de l'époque, qui était le marathon de Boston.
Clandestinement.
Voilà, par effraction. Ses camarades hommes l'ont accueillie parce que c'était une athlète, quoi. Elle a fait un temps formidable, mais évidemment pas homologué, puisqu'elle n'était pas inscrite. C'est un peu la marraine du livre, même si Emma Fulconis, donc l'héroïne, n'a pas ce genre de problème, ça se passe de nos jours. Mais c'est quand même l'histoire d'une émancipation. Et Bobby Gibb, au fond, la course, et ça, c'est pas, peut-être pas anodin, la course, c'est quand même une revendication féministe, finalement. Je le savais pas au début.
Donc voilà le motif, peut-être.
Peut-être, je c'est, pense, oui.
C'est finalement. Un roman féministe.
Mais oui.
Même oui. Si il n'en a pas...
C'est pas un gros mot.
Si c'est pas un roman, si c'est un roman.
Non, non,
si
c'est pas un gros mot. C'est... Moi, oui, je pense pardon. Que oui, c'est féministe, parce que tout simplement... comment dire, Emma Fulconis, elle s'émancipe aussi. Il y a quand même la question du genre aussi. Peut-être qu'on y reviendra quand il est question de son handicap. Ou par exemple, on ne veut pas lui faire des chaussures orthopédiques qui ne soient pas des chaussures de filles. Il y a des choses comme ça, des petites allusions.
Alors, dans votre roman, Marlène Debiol, ça court, mais ça claudique. Qu'est-ce qui boite ? Le personnage, ça c'est sûr, puisqu'elle se fait mordre par ce chien. Mais est-ce que l'histoire avec un grand H ne boite pas aussi ?
Si. Si, si. Et même, je dirais, et même l'écriture. Moi, j'aime bien, enfin, c'est des plaisirs de lecture aussi. J'aime bien, au fond, les histoires qui ne coulent pas de soi, qui ne roulent pas, qui ont des... Oui, des claudications, qui ne savent pas tout. Et d'ailleurs, c'est réaliste, au fond. On ne sait pas tout, on a la mémoire qui flanche, on invente des choses. Et en effet, oui, cette histoire, elle... J'aime pas non plus avoir la main mise sur mes personnages. Je ne sais pas tout d'Emma Fulconis. Je ne comprends pas tout à ce personnage. Et donc, il y a des manques qui font que l'histoire, elle boite un peu et que je peux m'introduire, et j'espère le lecteur aussi, peut s'introduire dans cette histoire, la prendre à son compte. Et puis, en effet, l'histoire avec un grand H...
Celle des Harkis, voilà, avec un grand H.
Exactement. Elle ne va pas de soi non plus. On a mis beaucoup de temps à reconnaître comment dire, l'injustice qui leur a été faite. On a mis beaucoup de temps à mettre des mots sur cette histoire. Et là aussi, ça ne va pas du tout de soi.
Alors, on va raconter l'histoire de votre personnage, Emma Fulconis, mais aussi celle des Harkis qui arrivent dans le sud de la France après l'indépendance de l'Algérie. Mais je vous propose d'abord de découvrir Lisa Ducasse. C'est une jeune chanteuse d'origine mauricienne qui, incontestablement, a une voix et une plume.
Les cumulus en bande passante t'exposent la texture des départs, mais pas du tien. Tu voudrais raccourcir l'attente, ça fait un an que tu chemines en air de rien. Ça fait un an que tu cumules, que tu avances, que tu recules les heures, les hémisphères. Ça fait un an que tu tentes de toucher les éclipses lunaires. Et tu te promets à la beauté, même si la peur te bat autant peu. Tu te promets à la beauté, même si ton courage se détrempe. Tu te promets la beauté que seuls peuvent défendre ceux qui doutent. Il y a tant en toi qui t'empêche. Tu vis de rêve et de trapèze suspendu dans le vide. Et sur le fil du faux raccord, toi tu escorteras l'essor jusqu'aux scènes à vie. Et tu te promets à la beauté, même si la peur te bat autant peu. Tu te promets à la beauté, même si ton courage se détrempe. Tu te promets la beauté que seuls peuvent défendre ceux qui doutent.
Lisa Ducasse sur RFI avec ce titre « L'essor », annonciateur d'un album à venir peut-être pour la fin de l'année. Marlène Desbiol, je sais qu'il y a très longtemps, dans les années 80, vous avez écrit des chansons. J'en ai vu et entendu une notamment, c'était pour Diane Tell, c'est elle qui chantait. Est-ce que vous continuez à écrire des chansons ?
Malheureusement, non.
Pourquoi malheureusement ?
Mais parce que ça m'amuserait en vérité. Et peut-être de plus en plus, au fond. J'aime bien. J'espère que je ne dis pas de bêtises en ce qui concerne les chansons, mais j'aime bien aussi cette légèreté. Moi, j'ai une passion, par exemple, pour Verlaine, qui a écrit des chansons, hein, qu'on oppose toujours à la profondeur de Rimbaud. Mais moi, je trouve qu'il y a. Enfin, comment dire, que dans cette légèreté-là, il y a. Énormément de choses qui sont dites en filigrane comme ça. Ça me plaît infiniment.
Dans votre nouveau roman, La Graffe, Emma chante. L'héroïne chante et vous écrivez, les chansons sont des petites danses, elles déhanchent les mots. C'est joli.
Oui, et ça, c'est vraiment le cadeau que m'a fait le livre, en vérité. Parce que je ne savais pas à l'avance comment Emma Fulconis allait se sortir de cette affaire. Et c'est chemin faisant parce que moi je n'ai pas de plan établi, hein, je fonce un peu dans le c'est le cas de le dire, un peu dans le brouillard. Et en vérité, elle ne va pas courir de nouveau puisque sa jambe est fichue, mais elle va inventer ses petites chansons. Ces petites danses qui ne sont petites que parce qu'on les entend guère, c'est pas non plus spectaculaire, mais dont l'intensité la fait vibrer autant sinon plus que la course, pour finir.
Alors vous aimez la course, Marlène Desbiol, vous aimez aussi la brièveté, souvent vos livres sont courts et La Graffe ne déroge pas à la règle, les phrases sont courtes aussi, on ne voit qu'elle, c'est la première phrase du roman, c'est absolument visuel. On ne voit qu'elle.
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, dans ce « on ne voit qu'elle », il y a donc Emma Fulconis et il y a le « on » qui est le narrateur du livre, en fait.
Qu'on retrouve tout au long du livre. C'est étrange, c'est rare qu'un roman se raconte avec ce pronom indéfini.
Oui, c'est enfin oui.
Oui, c'est rare.
Je vous dis oui, sans m'en faire. Non, ce on en fait, il est composé. C'est un cœur un peu indéfini, mais un cœur indéfini en effet. C'est évidemment les gens du village, mais pas seulement. Le on, c'est vraiment ceux qui voient, qui ont un regard sur Emma Fulconis et pas toujours bienveillant. Ce qui fait que Emma Fulconis, en effet, elle a plusieurs, il y a plusieurs façons de la regarder, il y a plusieurs regards sur elle, et comme je disais, il n'y a pas une façon de la regarder juste. Il y a plusieurs façons. Alors, par exemple, Emma Fulconis souvent est moquée parce que avant même d'avoir son accident, c'était un être à part. Elle avait des surnoms, la flèche, le zèbre, bon. Et donc ce on, il est important parce que aussi il porte. Il n'y a pas un personnage qui est le méchant, qui porte toute la culpabilité du racisme. C'est plus dilué que ça. Et je pense que ça, quand même, c'est. Enfin, pour moi, c'est quand même du réalisme aussi.
Mais dans ce on, il y a vous, l'autrice. Oui. Mais il y a moi aussi, le lecteur.
Exactement. J'espère, oui, que le lecteur peut s'immiscer dans ce on.
Cette jeune fille court donc dans les collines de l'arrière-pays niçois, donc ça c'est chez vous. Est-ce que vous la connaissez ? Est-ce que vous pourriez la connaître ?
Emma Fulconis, elle a des modèles. C'est un peu moi aussi. mais c'est vrai que j'ai connu une jeune fille qui était la meilleure amie de ma fille au collège, qui n'était pas fille de harki, qui n'a pas été mordue par un chien, mais qui a eu une opération à la jambe catastrophique. Et tout ce que je raconte de l'hôpital et de la rééducation...
De la douleur du corps.
De la douleur du corps, ça m'a été donné par cette jeune fille qui aujourd'hui est une jeune femme et à qui j'ai demandé, avant d'écrire le livre, de me raconter à nouveau ce qu'elle a traversé. Et il y a aussi sa voix dans le livre. Et c'est une jeune femme, d'ailleurs, qui est handicapée, mais qui fait des performances autour de son handicap. Et ça, c'est quelque chose aussi qui nourrit mon livre.
Alors, votre personnage, Marilyn Desbioles, Emma Fulconis, se fait mordre par un chien qui appartient en fait au père d'un copain. Mais il faut préciser quand même cet épisode-là parce qu'il est central. Un chien qui n'aime pas les Arabes, dit le père. Et c'est une phrase terrible, car elle dit en fait le racisme du maître, pas du tout du chien.
Bien entendu. Bien entendu, d'ailleurs, Emma Fulconis, qui va la faire vraiment pleurer alors qu'elle n'a encore jamais pleuré, c'est quand on va lui annoncer que le chien a été euthanasié. Je ne sais pas exactement pourquoi elle pleure, mais il y a de ça, de ce que vous venez de dire. C'est le chien n'est pas responsable du racisme de son maître. C'est une phrase monstrueuse, terrible. Et c'est aussi... pour Emma Fulconis, le début du récit, même si c'est monstrueux, même si c'est horrible, c'est le début du récit parce que jusque-là, personne ne lui avait parlé de ses origines harkis.
Et elle ne se pensait pas arabe. Peut-être pas.
Elle s'en fichait, en fait, parce que elle se sentait très inscrite dans le village. C'était pas une question pour elle. Même si c'était pas caché, il y avait des photos dans sa maison, etc., où on voyait sa grand-mère dans le hameau de forestage, dans le camp des harkis, autrement dit. Mais aucun récit n'avait été fait. Et c'est ça qui manque, au fond. S'il n'y a pas de récit, il n'y a pas de savoir sur ses origines, au fond.
Marilyn Desbioles, j'aimerais que vous nous lisiez un court extrait de votre roman, L'Agrafe. C'est à peu près à la moitié du roman. Emma a été mordue, elle a été opérée, ça va mieux, elle reprend l'usage de ses jambes, mais bien sûr, elle ne court plus. Et c'est donc cet extrait, parce qu'elle va faire quelques kilomètres qui vont l'emmener vers un endroit très précis de cet arrière-pays niçois.
Elle est en sueur. Elle a les traits tirés. Ces 2 kilomètres la vieillissent. Le temps n'est plus une donnée. Autrefois, signifie il y a un peu moins d'un an. En bord de route, il y a une stèle et dans le vallon, les baraques à déposer. La stèle, d'abord, dissimule tout. Ce n'est pas qu'elle soit grande, mais c'est qu'Emma Fulconis lit et relit ce qui est écrit sans rien retenir. Chaque phrase balayant la précédente, elle lit et relit sans rien retenir ce qu'elle sait depuis toujours et que personne ne lui a dit, ce qui la concerne de près et lui est étranger. Mémorial du camp de l'Escarène, hommage aux harkis et à leur famille, de 1963 à 1980 vécurent dans ce camp dit hameau de forestage 30 familles de harkis, soldats et combattants supplétifs, engagé aux côtés de la France durant la guerre d'Algérie de 1954 à 1962. Hommes, femmes et enfants, torturés, lâchement massacrés, rejoindre le sol français indésirable, camp de transit, les Escarénois fiers, sans verser, jamais oublié, français, aux harkis, la France et l'Escarène reconnaissante. Où c'est le vent qui agite les mots en tous sens. Dans le vallon étroit, il ne reste qu'une baraque, celle qui se trouve en amont. Les 6 autres sont démolies ou en cours de démolition, de déposition.
Marilyn Desbioles, extrait de votre roman L'Agrafe, ce moment où Emma Fulconis découvre le mémorial des harkis, à la mémoire des harkis. Est-ce que vous avez eu un modèle plus ou moins pour ce personnage? Est-ce que vous avez eu un déclic pour raconter cette histoire, l'histoire de cette communauté? Parce que c'est pas du tout votre histoire. Vous n'êtes pas fille de harkis.
Pas du tout. J'ai beaucoup. La guerre d'Algérie hante beaucoup de mes romans, tout simplement parce que elle fait partie de notre histoire et on sait combien elle compte et qu'elle n'est toujours pas passée. Mais aussi parce que mon père a fait la guerre d'Algérie et que, comme tout le monde, il ne nous en a rien dit. C'est aussi que j'ai écrit un livre qui n'est pas un roman, qui s'appelle Charbon Ardent. Il était question de cette fameuse marche de 1983 pour l'égalité et contre le racisme. Et je me suis rendu compte que les jeunes gens qui, à l'époque, ont participé à cette marche, les jeunes garçons et les jeunes filles, étaient le plus souvent fils et filles de harkis. C'était pas, et ça m'est resté en mémoire. C'était pas quelque chose, en effet, qui m'avait retenu jusque-là. Et puis, tout simplement, ça s'inscrit dans mon paysage, donc à l'Escarène. Et cette inscription dans le paysage dit beaucoup de choses. Cet hameau de forestage est situé à 2 kilomètres du village, dans un vallon. Et quand on passe sur la route, on aurait pu ne pas le voir. Je dis on aurait pu, puisque maintenant, il est rasé pratiquement. Et donc, ça dit beaucoup de choses déjà. Ça dit combien cette histoire a été cachée, combien, malgré ce que dit la stèle commémorative, on les a peu accueillis. Donc, cette inscription dans le paysage, dans mon paysage, est très importante, oui.
Donc, il fallait que vous le racontiez.
D'autant plus que ça allait être rasé. Et ça, c'est aussi ce pourquoi la littérature existe aussi. C'est des petites choses. Alors, c'est un petit hameau de rien, avec des baraques. Il n'y a eu que 30 familles qui ont été là. Mais la littérature, elle est là aussi pour qu'il reste des traces, même de ces petites choses, au fond.
Mais il y a eu des centaines et des milliers de harkis qui sont arrivés en France ailleurs que dans ce village. Et c'est terrible leur situation, parce qu'ils étaient considérés comme des traîtres en Algérie, par les Algériens, et comme des moins que rien, ça je vous cite, par les Français. Donc c'est une situation complètement paranoïaque.
Oh, exactement.
Schizophrénique.
Absolument. D'ailleurs, il y a beaucoup de... J'ai rencontré depuis des fils et des filles de harkis à qui on n'a rien dit du tout. Leurs parents n'en ont absolument pas parlé. C'était une honte terrible et enfin, là aussi, un silence terrible.
Mais dans le roman, Emma n'a aucune information. C'est ce que vous disiez. On ne lui a pas parlé de la guerre d'Algérie, on ne lui a pas parlé du camp, on lui a à peine parlé de l'Algérie. Et il faut qu'il y ait cette morsure du chien et cette phrase terrible « un chien qui n'aime pas les Arabes » pour que tout d'un coup, comme un effet de révélation, la parole se libère et c'est son oncle. C'est même pas son père qui se languit ou sa mère, mais c'est son oncle qui va raconter cette Algérie qu'il a quittée enfant.
Oui, cette Algérie, alors cet oncle qui s'appelle de plus en plus Hakim, mais qui est connu dans le village comme Jean-Pierre. Et ça aussi, c'est très parlant, puisque quand les enfants arrivaient d'Algérie, Hakim était né Hakim en Algérie. Et puis, dès qu'il arrive dans le camp du Larzac ou de Rivesaltes, où d'abord les harkis étaient parqués, on l'appelle d'un prénom français, Jean-Pierre. Et la mère, d'ailleurs, d'Emma Fulconis, elle, comme elle est née en France, on l'appelle directement Francine, comme ça au moins.
C'est clair.
C'est clair. Voilà. Et dans les noms même, dans le paysage et dans les noms, on entend ce qui... Enfin, on entend un peu, on comprend ce qui s'est passé. Mais l'oncle Hakim, qui n'est pas un brillant causeur, va quand même délivrer, puisqu'il a connu le camp, puisqu'il y a vécu, il va délivrer des bribes d'histoire à Emma Fulconis.
Mais à vous entendre, Marine Desbiol, c'est plus qu'un non-dit, cette histoire des harkis. C'est vraiment la volonté de faire taire cette histoire, cette page de l'histoire, et donc cette population.
Oui, bien sûr. Et c'est un non-dit, et parfois c'est un mal-dit. Parce que, par exemple, sur cette stèle, les paroles un peu ronflantes cachent beaucoup de douleur. Je pense, là, encore une fois, alors il y a eu d'autres livres qui ont parlé des harkis. Je pense que la littérature, elle est plus à même de faire apparaître cette douleur, précisément.
Alors, peu à peu, quand même... La parole se libère en France, au compte-gouttes. Oui. Catherine Monet, il y a quelque temps, avait recueilli le témoignage de fils de harkis dont les parents ont débarqué. Alors, ce n'est pas de votre côté, c'est dans le Tarn, dans le camp de Puisselcy. Et c'était au début des années 60.
Il n'en parlait pas facilement. Il a mis beaucoup de temps à en parler. Et même encore, il en parle difficilement. Parce que c'est une blessure profonde. C'est-à-dire qu'il se retrouvait dans une situation qu'il n'avait pas forcément voulu.
Ils en parlent moins que les femmes. Ma mère, mes tantes, elles en ont parlé.
Elles en parlaient comment ?
Elles ont parlé de ce qui s'est passé, quoi, de ce qu'on a vécu, comment mon grand-père a été égorgé par les félagas, de cette douleur, de la façon dont on s'est fait le départ d'Algérie en France, de l'accueil ici. Le camp de la Courtine, quelqu'un qui vient d'Algérie et qui atterrit au camp de la Courtine, du jour au lendemain, c'est quelque chose de terrible, quoi. Mais au-delà du déracinement, je crois que c'est... On a déjà parlé de traumatisme, mais je sais pas, moi, je crois que c'est plus profond. J'ai eu l'impression que, dans ce que disaient mes tantes, elles étaient blessées dans leur chair. Ma mère, c'est le garant de notre histoire. Je crois que les femmes, quoi, les femmes ont joué ce rôle de gardien de ce temps de notre histoire, de notre identité. C'est elles qui ont dû supporter dans la réalité.
Marlène Desbiolles, vous reconnaissez ces témoignages? Vous avez entendu des témoignages similaires, j'imagine, en écrivant ce livre?
Oui, ben là aussi, il y a un peu de l'enquête, il y a de l'enquête dans ce livre. J'ai été voir aussi les harkis à Lescarène, qui d'ailleurs très généreusement m'ont donné même leur papier de famille pour que je sache d'où ils étaient venus, etc. Et qui d'ailleurs... dépassent un petit peu leur communauté. Par exemple, les harkis que j'ai rencontrés ont organisé récemment des matchs de foot avec les migrants qui, comme vous savez, dans les Alpes-Maritimes, viennent souvent par la montagne.
Par l'Italie.
Et donc, il y a aussi cette sensibilité. Ça, j'ai trouvé que c'était assez remarquable.
Alors, c'est un roman sur la mémoire, incontestablement, Marlène Desbiolles, cette agrafe. Mais le passé n'y est quand même pas écrasant. Alors, est-ce que c'est le style? Est-ce que c'est l'écriture? Vous procédez par petites touches, par dévoilements successifs, et puis avec une forme de sensualité dans l'usage des mots.
Ben, merci. Moi, j'espère, oui, en tout cas, que... qui a une forme aussi de légèreté malgré tout, malgré le tragique de l'histoire. Et puis, c'est quand même l'histoire d'une émancipation. Emma Fulconis, on va pas dire la fin, mais elle en profite pour se libérer, au fond, même de cette histoire qu'elle connaît, qu'elle porte en elle. Elle sait qu'elle la porte en elle, mais elle n'en reste pas là. Elle va peut-être en faire quelque chose, on ne sait pas, ça reste une possibilité, mais cette possibilité, elle est formidable, je trouve.
Oui, ça n'est pas un passé écrasant.
Non.
Un mot, alors que se termine cet entretien, pourquoi l'agrafe? On ne l'a pas dit, et c'est important.
L'agrafe, c'est à la fois très... c'est l'os qui s'appelait autrefois le péroné et qui, dans la nouvelle nomenclature médicale, s'appelle l'agrafe. Mais c'est aussi, bien entendu, l'agrafe, c'est ce qui permet de relier. Puis c'est, là aussi, c'est un tout petit objet qu'on a tous eu dans nos trousses d'école, là. Petit truc, cette petite chose qui permet de relier des papiers. C'est un lien. Ténu, mais c'est un lien.
L'agrafe dont vous donnez l'histoire, quant aux mots en tout cas, puisque vous vous référez au dictionnaire historique de la langue française et que Alain Rey, qui en était l'auteur, a trouvé la première trace de ce terme, de ce mot, en 1530, mais c'était pour parler de tapisserie, pour agrafer les tapisseries. Vous aimez les dictionnaires?
J'adore. C'est pas par cuistrerie que je fais des points comme ça. Pour moi, dans cette course que je mène, je m'arrête parfois, je regarde d'où viennent les mots. Souvent, ils m'entraînent dans des endroits incroyables. Ça me permet d'explorer d'autres pistes.
Et ça le fait plusieurs fois dans le roman.
Oui.
Enfin, ça le fait, ça. On le lit plusieurs fois.
Oui. Moi, je me laisse mener. Oui, moi, je me laisse vraiment mener par les mots, par leur origine, par leur sens. Incroyable.
Merci Marlène Desbiolles. L'agrafe est éditée chez Sabine Vespisseur et vous avez obtenu le prix des lecteurs du journal Le Monde pour ce roman. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. Dans quelques secondes, les infos et on se retrouve la semaine prochaine.